Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07. On est très heureux de vous retrouver évidemment dans les grandes gueules du sport comme tous les week-ends, le samedi, le dimanche de 9h à midi. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter en direct, mais également en podcast où tous les mois on bat des records. Donc merci infiniment de votre fidélité. Ce matin nous sommes avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, Olivier Giraud, Jérôme Pineau dans quelques instants. La seconde des GG, la grande finale évidemment de Roland-Garros entre les deux meilleurs joueurs du monde. Première fois d'ailleurs qu'ils se retrouvent en finale d'un grand chelem. Alcaraz, Sinner, est-ce le nouveau Nadal Federer? Ce nouveau choc qui va nous faire vibrer pendant 15 ans. 11h30, le dossier des GG, c'est le grand retour du duel Pogacar-Vingegaard, celui qui va, on l'espère, nous régaler tout l'été durant le Tour de France. Les deux meilleurs coureurs de la planète se retrouvent à partir d'aujourd'hui sur le Dauphiné. Pour la première fois depuis la Grande Boucle 2024, le Tour de France se joue-t-il en partie cette semaine? Vous devrez répondre à cette question. Et puis 11h45, ce moment que vous aimez tant, les auditeurs, pour vous c'est un piège les GG, le débat caché, vous ne savez rien et pourtant il va falloir débattre. Votre petite sensation là, d'après vous, j'ai préparé un bon débat caché. Selon vous, c'est quoi, Christophe Cessieux?
Je pense que on peut pas quitter cette émission sans rendre un hommage à un grand monsieur d'RMC qui va nous quitter aujourd'hui. Il s'appelle Jeannot Rességuet.
Non.
Comment ça, non?
C'est lui qui crie, mais c'est un nom enregistré.
Tu vas te dire, Jeannot, laisse-moi parler. 37 ans de boîte. Et voilà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on parle de Jeannot. Et on a plein de choses à raconter. D'autant, tu vas te taire un peu. D'autant qu'il va quand même me laisser à moi la canne de doyen, désormais.
Oui. Donc après, le prochain, c'est toi.
Et là, je passais presque pour un petit jeune, et maintenant, je vais passer pour un petit vieux.
J'ai peut-être changé mon débat caché. Jeannot Rességuet, on l'embrasse.
On l'embrasse, notre Jeannot.
De France-Allemagne, c'est à 15h pour son dernier match de l'équipe de France. Il sera encore dans les murs quelques jours, mais c'est son dernier match à l'antenne. Le débat caché, Olivier Giraud.
Eh ben, tu parlais du...
Pardon, juste, c'est la finale de la Ligue des Nations qu'il fait ce soir. C'est pas le match des Bleus.
Tiens, juste un petit mot. Si vous avez envie de tout savoir sur Jeannot, il y a un travail formidable qui a été fait sur le site RMC Sport par Romain Duchâteau, qui est community manager et qui fait parler les anciens et qui lui a fait raconter tous ses débuts et tout. C'est sur le site. Allez-y, c'est génial.
Ok. Olivier Giraud.
Tu parlais du match de cet après-midi, peut-être le débat caché sur la gestion des joueurs de l'équipe de France par Didier Deschamps.
La blessure de Dembélé, de Barcola. Je vous rappelle, il devrait retrouver le Paris Saint-Germain, mais après les phases de poule de la Coupe du Monde des clubs.
Pas mal.
Fred Weiss.
J'ai vu que Omar Sy devenait copropriétaire du Paris Basketball, donc je me disais que la question pourrait être, est-ce que ces stars qui s'intéressent au sport en général, ça peut être intéressant pour le sport ou pas.
Ok, c'est la proposition, pourquoi pas, de Fred Weiss. Jérôme Pineau.
Moi, j'adorerais qu'on parle de Jeannot, mais tu peux nous parler de ces compétitions à rallonge entre la Coupe des Nations, la Coupe du Monde des clubs, et est-ce que en grande partie tout cela a encore du sens de faire des compètes pour faire des compètes et de l'oseille pour faire de l'oseille? Est-ce que le sport a encore son mot à dire dans tout ça? Est-ce que les sportifs sont blessés?
Tu veux la réponse?
Oui, je l'ai la réponse. Mais tu peux nous parler de ça aussi, ce qui se passe là avec Barcola Dembélé, c'est uniquement que ce qu'est en train de devenir le sport, des saisons à rallonge et on perd des joueurs, et le spectacle en pâtit.
Réponse à 11h45 pour le débat caché, évidemment.
C'est un peu long, j'avoue, c'est un peu long.
Très belle proposition, les amis. Et on joue aussi dans cette émission.
RMC, tu gardes ou tu switches?
Merci Mario, c'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter, grâce à Micromania Zing, la console Nintendo Switch 2. Pour vous, dans quelques jours, dans votre boîte aux lettres, si elle passe, évidemment, vous envoyez dès maintenant Switch au 732-16. Switch au 732-16. Fred Weiss, comment ça s'écrit Switch?
SWITCH.
À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous. Il est 11h11, vous avez jusqu'à 11h16. Le grand gagnant sera avec nous en direct dans cette émission. Pour débuter cette troisième heure, nous allons citer Jean Racine, qui a dit un jour, j'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Certains enfants sont particulièrement doués.
Sinner qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit, c'est gagné. Yannick Sinner qui s'allonge sur le dos.
Il monte, c'est fini.
Attaque gagnante, Carlos Alcaraz.
Leur cerveau semble fonctionner différemment de la moyenne.
C'est fini. Oh là là, une leçon tactique. La balle de match résume tout. Il a maîtrisé de A à Z son tennis.
Et attention, on regarde de Govi filet.
C'est gagné pour Carlos Alcaraz.
On donne aussi à ses enfants l'étiquette de douance ou encore de précocité intellectuelle.
On connaît le premier finaliste de cette édition 2025. C'est Carlos Alcaraz qui vient de bénéficier de l'abandon de Lorenzo Musetti.
C'est qui le patron ?
Sinner, voilà, ça va dans le filet. Et Yannick Sinner décroche sa place en finale de Roland-Garros. Et jouera donc Alcaraz. Quel régal !
C'est le nouveau choc du tennis mondial, le numéro 1 Yannick Sinner face au numéro 2 Carlos Alcaraz. Pour la première fois, la Next Gen semble s'être débarrassée de l'ombre des trois fantastiques Nadal, Federer, Djoko pour écrire leur propre histoire. Sinner-Alcaraz, est-ce le nouveau classique du tennis, celui qui va nous faire vibrer pendant au moins 10 ans, comme les affrontements mythiques entre Roger Federer et Rafael Nadal qui se sont retrouvés 24 fois en finale d'un grand tournoi, dont 9 fois en finale d'un grand chelem. Pour Sinner et Alcaraz aujourd'hui, c'est l'acte 1 à 15h. La musique qui fout les jetons à cette question. Sinner Alcaraz, est-ce le nouveau Federer Nadal ? Oui ou non ? Fred Weiss ?
Oui.
Christophe Cessieux ?
C'est le match vedette, mais ça n'a pas du tout le charme d'antan. C'était mieux avant.
Ça m'aurait étonné aussi.
Vous savez ça, non ?
Olivier Giraud ?
Oui.
Jérôme Pinault ?
Non, parce qu'il faut donner du temps à ce duel-là de se développer et parce que Sinner, ça me gêne.
Vous avez entendu son rire, non pas grave, mais son rire, à notre
la
spécialiste Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous, bonjour.
C'est vrai que c'est une stat importante, c'est la première fois que ces deux monstres du tennis vont se retrouver en finale d'un grand chelem.
Ouais, ce sera une grande première et ça répond à une logique arithmétique. Ils se sont joués en finale d'un ATP 250, puis en finale d'un ATP 500 et enfin en finale du Masters 1000 à Rome récemment. Et on peut guère se tromper en affirmant que vu leur âge respectif, c'est le début d'une longue rivalité au plus haut niveau. Interrogé sur ses héritiers, ses enfants, j'ai envie de dire, Novak Djokovic garde toutefois une certaine mesure.
At the moment, that's kind of hard.
Là, tout de suite, c'est un peu difficile parce qu'il faut qu'ils jouent l'un contre l'autre pendant 10 ans. Ou plus non-stop pour faire partie de cette discussion, mais ils sont définitivement incroyables. Leur rivalité, notre sport en a besoin, et avec la façon dont ils jouent et leur manière d'appréhender leur vie avec le tennis, ils vont avoir beaucoup de succès. On va souvent les voir soulever les principaux trophées.
C'est si vrai que depuis l'Open d'Australie 2024, ils ne laissent rien aux autres. À l'image d'un Nadal Federer, il y a une vraie opposition de style, moi je trouve, entre ces deux-là. Il y a une personnalité différente. L'Italien dégage une rigueur un peu austère et prend un malin plaisir à étouffer l'adversaire. L'Espagnol, lui, c'est le romantisme. Il est plus dans la recherche du plaisir et son efficacité peut parfois se ressentir. Ils sont pas proches l'un de l'autre, non. Je suis même pas sûr qu'ils aient les 0-6 de l'un et de l'autre. Mais Yannick Sinner apprécie quand même la présence de Carlitos.
It takes time to compare us with the big three or big four.
Cela va prendre du temps pour nous comparer aux 3 ou 4 meilleurs joueurs de l'histoire. Il n'y a que le temps qui nous le dira, pour être honnête. Il est certain que pour moi, Carlos est un joueur qui m'aide à améliorer mon jeu. Il me pousse dans mes limites. À chaque fois, il me fait réfléchir sur comment je dois m'améliorer pour les prochaines fois où je vais le rencontrer. Je pense que le tennis, comme tous les sports, a besoin de ces rivalités. Cela pourrait potentiellement en être une belle.
Alors, je ne vais pas me hasarder à un pronostic, mais il y a une statistique qui peut faire la différence. C'est la longueur de la bagarre tout à l'heure. Carlos Alcaraz a gagné 12 de ses 13 matchs en 5-7, alors que Sinner, curieusement, possède un bilan négatif dans cet exercice. On a encore des doutes sur sa capacité à être performant quand ça dépasse 4 heures.
Merci beaucoup Eric Salio, tu restes avec nous pour ce débat. Sinner Alcaraz, est-ce le nouveau Federer Nadal, le 32-16, le hashtag RMC Live, pour participer aussi à cette émission. Christophe, c'était mieux avant.
Je suis pas le seul à le dire. Écoutez, tu as entendu ce qu'a dit Djokovic. Évidemment, c'est le nouveau duel à la mode et je pense qu'on en a pour quelques années. Ils ont 22 et 23 ans. Ils sont largement au-dessus du lot pour l'instant de la Next Gen, même si on espère qu'un Arthur Fils pourra se mêler à la bagarre, mais c'est sûrement pas pour maintenant. Un Rouneux, un Shelton, un Fonseca aussi peut-être seront invités dans quelques temps. Qui nous dit que ces deux-là vont dominer de la tête et des épaules pendant 10 ans, 15 ans, comme l'ont fait les trois, parce qu'ils n'étaient pas trois. Là, tu t'es juste concentré sur Federer Nadal, mais il y avait aussi le Joker, celui qui était là pour empêcher.
Qui est arrivé un petit peu après.
Qui était là pour empêcher de tourner en rond. Qui était le mec qu'on adorait détester, alors qu'on adorait soit Federer, soit Nadal. Et puis il y avait Djokovic, lui, on détestait, maintenant on l'adore. mais à l'époque, voilà, il y avait quand même ce trio. Là, j'ai bien du mal à me dire qui j'aime et qui je déteste. Alcaraz, j'aime bien.
Ah,
il
bon
est, c'est fin. Oui, c'est son, le doc.
Pas moi. Hein.
Qu'il a montré. Le doc montre Netflix, quelques ouais failles et je l'apprécie. Mais alors, Sinner, il est aussi charismatique qu'un chou-fleur, quoi.
On en a eu beaucoup des joueurs comme ça.
Ouais, mais
quand Chang gagne contre qui Chang.
Ouais, mais Chang,
il gagne contre un robot.
Chang,
antipathique.
Lendl était antipathique.
Mais ça marchait parce que la confrontation des deux personnalités faisait que c'était intéressant.
Oui, Borg aussi, si tu veux, était un peu robotique
il avait
un look. T'as vu le look? Est-ce que tu as vu le look qu'avait Sinner hier en demi-finale? Il était habillé comme l'as de pique avec un mauvais t-shirt vert, une casquette bleue. Il ressemblait à rien.
Et malgré ça, il est extrêmement fort. C'est ça qui est génial. Moi, je trouve ça génial. Il ressemble pas à ce qu'il procure sur le terrain quand tu le vois.
Il est extrêmement fort. Mais
c'est ça qui est magnifique.
Pour être un immense champion, il faut non seulement être un génie sur le terrain, et ça, je vous le concède, c'est franchement, il est impressionnant. Il glisse sur la terre battue comme un skieur, c'est ce que me disait Eric hier, mais en même temps il faut aussi un peu de charisme. Effectivement, Lendl avait pas avec le charisme d'une huître aussi à l'époque, mais
en tout cas sache que les choufleurs viennent d'appeler, ils sont furieux hein, après toi. Olivier Giraud,
c'est assez marrant parce qu'à chaque fois qu'on discute de quelque chose, on en discute de la fin, c'est-à-dire qu'on parle de Nadal comme si Nadal avait été adulé à Roland-Garros, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les six premières années, quand même, il y a même des mecs qui passent
pour aussi.
Il faut du temps. Et Federer était largement au-dessus. Et il l'a acquis avec le temps, sa notoriété, Nadal, et l'amour qu'on a pour lui. Parce que, au final, on a commencé à s'intéresser à Tony Nadal. On a commencé à s'intéresser à Nadal, sa personnalité, ce qu'il faisait en dehors, ce qu'il était vraiment. Et on a appris à l'aimer. Aujourd'hui, t'as un Sinner, il est pas très aimé. Et que, finalement, pour le tennis, c'est un petit peu un robot. Avec l'opposition d'Alcaraz, et ben c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, et que cette finale, elle est hyper attendue.
Donc ça veut dire que tout le monde va être pro Alcaraz, en fait, c'est ça, la planète tennis.
Je le pense sincèrement.
Mais c'est important d'avoir quelqu'un détesté ou un moins aimé. C'est hyper important dans une rivalité.
Il donnait des raisons pour qu'on le déteste. Sinner, il donne pas de raisons.
Ouais, mais c'est comme ça, il y a parfois que un ressenti.
Attends, Jérôme Pino arrive.
Et il y a une stat qu'Eric n'a pas donnée, c'est que oui, il y a les stats de leur confrontation, mais les stats de leur confrontation sur terre battue, eh ben vont largement à l'avantage d'Alcaraz. C'est 4 sur 5. Donc aujourd'hui, tu vas avoir une opposition de style. Là, ce qui est intéressant, c'est que Sinner, il a un petit peu tué l'ancienne génération en battant dans un match fantastique. On a besoin de matchs fantastiques. Ouais. Le Joker. Eh ben, je pense que ça y est, on est prêt pour une nouvelle aventure et de nouveaux champions. Il en faudra
un peu de
notre
temps.
GG...
Ouais, voilà, il faut un troisième.
Notre GG Tennis est avec nous pour parler de ce Sinner Alcaraz. C'est Sarah Pitkowski. Salut Sarah.
Bonjour messieurs, salut les GG, salut à tous.
Il a la même couleur de cheveux que Sarah.
Je vais laisser la parole évidemment à Jérôme et à Fred dans quelques instants. Mais déjà, est-ce que quand je te dis Sinner Alcaraz, est-ce que c'est le nouveau Federer Nadal? Est-ce que tu vois cette opposition déjà? Est-ce que tu es d'accord avec cette question?
Bah plutôt, je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère, ça c'est certain. Vous l'avez un peu tous évoqué, pour qu'il y ait un duel, il faut qu'il y ait des oppositions de style de jeu, de caractère. Vous avez Alcaraz qui est plutôt instinctif, c'est-à-dire que il est capable de faire des choses extraordinaires et puis après des moments d'absence, enfin, c'est-à-dire qu'il nous fait vibrer. Et puis de l'autre côté, on a quelque chose de presque plus helvétique. De plus robotique. Donc en fait, ces deux-là, par leur caractère, par leur tennis, pour l'instant, si tu fais la liste des pour et des contre, t'as beaucoup plus de pour qui fait qu'on devrait rentrer dans une nouvelle ère. Et oui, on peut le comparer à Federer-Nadal, mais on peut comparer à d'autres grands duels du sport. Quand on a eu des McEnroe-Borg, quand on a eu les Sampras-Agassi, même chez les femmes, on a eu besoin de ça. Quand il y a eu Navratilova-Evert, les grands moments de tennis se sont construits quand il y a eu des grands duels qui se sont petit à petit installés. Et pour une première finale de Grand Chelem, là où ils se rencontrent, enfin moi je trouve qu'on commence on a tous les ingrédients pour commencer une nouvelle ère.
Attention, même si tu t'entends bien avec Jérôme Pino, ça va saigner. Jérôme.
Non, non, ça va pas saigner. Non, mais là, sur le côté duel, oui, évidemment que ce sont les deux meilleurs joueurs du monde actuel de tennis et ils vont se rencontrer à Roland et c'est certainement le début de cette longue histoire et de ce long roman. Moi, ça ne m'empêche pas de penser que l'année où il a été contrôlé positif, tu sais, moi je viens d'un sport où quand les mecs y revenaient, tout le monde les saluait, moi je les saluais pas et quand ils me battaient alors qu'ils avaient été positifs avant, j'avais toujours eu ce doute et cette amertume. Et là, je l'aurais aussi parce que c'est entaché. On peut essayer de tout mettre sous la couverture et d'oublier ce qui s'est passé cette année. On a fait des dizaines de débats sur le Casiner et oui, c'est foutu de nous ou non. Il est dopé, non pas dopé. C'est pas de sa faute, c'est son kiné. N'empêche que l'histoire, elle est là. Alors oui, peut-être que le tennis oubliera plus vite que ce qu'on a oublié dans le cyclisme. Mais malgré tout, c'est l'année de son contrôle positif et il va peut-être remporter Roland Garros. Et ça, moi, ça me gêne. Dans l'histoire de ces grands champions qu'on a tous cités jusque-là et des Nadal, Federer, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu cette histoire-là. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que toutes les déclarations qui ont été faites par les joueurs au moment du contrôle positif de Sinner, ça reste là. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont exprimés là-dessus. Je suis pas sûr qu'ils soient très fiers de voir celui-là gagner le tournoi majeur de l'année. Moi, ça laissera de toute façon quelque chose en travers. Ça n'est que mon avis de l'amertume. Et puis, au-delà de ça, il y a du charisme chez les grands anciens. Alors peut-être que Lendl était froid, mais il y avait quelque chose là. Non seulement il a eu cette histoire-là, mais en plus il m'emmène pas quoi. Moi, il me procure rien. Il est même pas italien dans le style parce qu'il c'est le plus
moche
style du tournoi. Non mais
Jérôme, concentre-toi juste sur Alcaraz alors, parce que c'est peut-être Alcaraz qui va faire le doublé.
Alors Sarah, pour en avoir discuté des dizaines d'heures avec toi, je suis à fond derrière Alcaraz aujourd'hui et tu le sais.
Voilà, mais c'est ce qui fait naître une rivalité. Il faut quelqu'un que l'on soutient et quelqu'un que l'on ne soutient pas. En l'occurrence, Fred Weiss.
Moi, j'aime. Et dans chaque rivalité, il y a un début. Et effectivement, c'est un début pour ces deux-là. Ces deux jeunes joueurs, 23 et 22 ans, on l'a dit tout à l'heure. C'est des joueurs qui, à chaque fois qu'ils ont une finale de Grand Chelem, une finale de Grand Chelem, ils l'ont gagné. Donc, il y aura un des deux qui va perdre pour la première fois une finale de Grand Chelem. Donc, forcément, ça va créer une rivalité. Ça va attiser le truc. Et effectivement, maintenant, on se rappelle de la fin. Mais il faut se rappeler des débuts. Et dans les débuts, il faut ce genre de confrontation, faut ce genre de match. Et effectivement, moi, je trouve que le fait qu'un soit détesté, ou en tous les cas moins aimé, à part par Sarah, et que l'autre soit plutôt l'Espagnol qu'on aime sur terre battue. Moi, je trouve que c'est un vrai storytelling et ça crée des rivalités. C'est ce qui nous plaît le plus.
Ok, Eric Salio, sur l'affrontement de cet après-midi, est-ce que pour le bien du tennis, il nous faut un match en 5-7, un match qui va durer extrêmement tard? Est-ce qu'il faut ça absolument?
Ah, ce serait génial. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends l'argument de Jérôme. D'ailleurs, j'attends l'Instagram de Carl Alcaraz qui va dire « Je préfère ne pas jouer cette finale parce que je ne peux pas jouer contre un dopé. Ça va peut-être tomber dans les minutes qui tombent, qui arrivent. » Non, mais on peut tout envisager. Sinner est unanimement apprécié dans le vestiaire. Je suis désolé de te le dire. C'est un garçon qui est
poussé. C'est bien, mais c'est pas, on n'est pas dans le même sport. Même, oui, humble, ouais.
Ah, bah oui, non, mais moi je te dis ce que je ressens. Ce
non,
que
mais
je
tant mieux, tant mieux.
T'as vu des joueurs, à part Kyrgios.
Il les a respectés.
Il y a des joueurs qui l'ont taillé, qui l'ont mitraillé. Il n'y en a pas un.
Au départ, oui. Il y a quelques joueurs qui ont pris position quand il a eu ce contrôle positif. On les entend plus aujourd'hui, mais.
Il y a des joueurs qui n'y croient pas du tout.
T'as vu Nadal ce qu'il a dit?
Oui, mais ouais. Rappelez-vous quand même, il y a les Français, je viens au secours de Jérôme, il y a beaucoup de Français, Pierre Hugerbert, à ton micro.
Ils étaient embêtés par cette décision, oui.
Bah oui. Mais on n'a pas parlé de dopage pour Nadal à un moment aussi. On n'en parlait pas un petit peu, alors c'est pas sorti, il n'a pas été contrôlé, mais est-ce que tout le monde ne l'accusait pas de dopage aussi? Il y a eu beaucoup de suspicions aussi, hein. Donc, voilà.
Avec l'affaire Puerto, notamment.
Oui, c'était sur son médecin surtout.
Oui, non, mais d'accord, sauf qu'au final, il y a eu ces suspicions aussi.
Non, mais en tout cas, Eric, là où tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'on s'attendait à ce que ce soit un peu difficile. Ici, peut-être pour Sinner sur ce Roland-Garros, c'est l'accueil du public. Et je trouve qu'il a tout bien fait avec les Français pour justement jamais se mettre en avant. Là, c'est une qualité.
Bah, parce que oui, je répète, c'est un garçon qui est intelligent, qui sait d'où il vient. Il vient d'un petit village de 2000 habitants, il le répète, de 200 habitants, pardon. Et il sait d'où il vient, quoi. Et c'est un montagnard et il a gravi les échelons. Un à un, il aurait pu choisir le ski, bon. Et puis surtout, il a un entourage qui est Darren Cahill, c'est un coach qui est unanimement apprécié. Si Darren Cahill voulait pas travailler avec un dopé, il travaillerait avec un dopé, tu vois. Non, ce garçon respire l'humilité. Alors effectivement, Il a une dégaine improbable avec, d'ailleurs, je me suis mis en vert aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il m'a pris.
Oh non.
Mais.
Est-ce que tu peux te dire à Christophe Cessieux à qui ressemble, enfin, à qui ressemble la tenue de.
Luigi,
de,
non?
De
Luigi,
non?
Oui, voilà, Luigi. C'est ça, le fameux Luigi, oui. Super Mario.
C'est le jeu que tu fais gagner, là. C'est le jeu que tu fais gagner, non?
La Nintendo Switch en quelques instants, ouais, exactement, ça. Avec Mario Kart.
Ah ben voilà, peut-être que c'est une, peut-être qu'il fait la pub. C'est pour ça qu'on l'a bien en plombier.
Sarah, un dernier mot avec toi sur cette finale. On dit, et quelqu'un l'a rappelé autour de la table, que Carlos Alcaraz, bah voilà, sur terre battue, et c'est lui le tenant du titre, donc il est favori. Mais on a la sensation quand même que durant ce Roland, les choses se sont inversées.
Alors, inversées, je sais pas, équilibrées, c'est sûr. Alors, s'il faut mettre, ce serait 49-51, parce qu'en fait, il y a une inconnue. C'est celle de Carlos Alcaraz. Je lisais, alors je sais plus, je crois que c'est Jim Courier qui dit d'Alcaraz, c'est comme un cœur vivant. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc, en fait, c'est en ça, j'ai l'impression que c'est plus Alcaraz qui a les cartes en main, de savoir dans quelle mesure il peut tenir, parce que quand il est inspiré, il est extraordinaire et il est un peu au-dessus de Sinner. Mais c'est dans les moments un peu de creux, de savoir si ces moments de creux vont durer, comment Sinner va les utiliser. Pour moi, c'est une finale super, super excitante. J'en attends beaucoup. J'espère ne pas être déçue, mais j'en attends beaucoup parce que, encore une fois, pour moi, c'est le début d'une histoire.
Merci Sarah d'avoir été avec nous. Eric Salut, on te retrouve à partir de 15h sur RMC avec Florent Serra pour commenter cette magnifique finale donc entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Merci à tous les deux de nous avoir fait vivre à ce point ce Roland-Garros et n'hésitez pas à aller sur cours numéro 1 pour le podcast tennis évidemment si vous voulez vous régaler avec nos experts. Il est 11h28, on va se retrouver dans quelques instants. Pour un sport cher à Jérôme Pinault,
enfin,
à Christophe
Cessieux,
le Critérium. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme ?
Non mais c'est très bien, on va parler de vélo, ça va être cool. Par contre, je veux plus entendre comment ça se fait que lui il domine comme ça, qu'il écrase tout le monde, il est dopé forcément.
D'accord. Va relire le bouquin de Lance Armstrong et on revient dans quelques instants le critérium du dopiné avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Là encore un autre duel, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, toujours avec Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Fred Weiss et Olivier Giraud. Et pendant la publicité, il faut que je vous raconte, il y a ce duel entre Oklahoma City et Indiana, un duel dont on se moque, mais
pas du tout, mais c'est ça le problème.
Et alors Christophe est en train de voir quoi, la natalité, la mortalité, la démographie.
J'essaie de m'intéresser à cette ville qui pour moi est quand même le symbole des cow-boys, des westerns, des troupeaux de vaches et tout ça. Et je savais pas qu'on jouait au basket aussi dans ces coins-là, mais
je me rends compte que
c'est une grande ville de 680 000 habitants, 423 habitants au kilomètre carré, donc voilà. Mais
10 fois Montauban.
Et quand même, Fred me dit qu'à part le basket, il n'y a rien d'autre à faire là-bas. Donc il connaît, a priori. Je salue mon pote Jacques, mon Clark, qui passe son temps en ce moment-là.
Oui, il en profite bien, d'ailleurs.
Il profite toujours bien des trucs, t'inquiète.
C'est vrai que c'est pas la finale la plus sexy pour les commentateurs.
C'est une finale de pro et de vrais amateurs de basket, parce que les autres, c'est compliqué.
Oui, je suis d'accord.
Mais il y a un rodéo, tu peux aller voir le rodéo après le match de basket? Comment
c'est, en même temps. C'est en sortant.
C'est un peu comme les films d'auteur, quoi, tu vois.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est pour les spécialistes.
Okay. Allez, on envoie tous les clichés, c'est ça sur les villes américaines.
Oklahoma City, quand même.
Oui, c'est un peu perdu, oui.
Capital of the New Century.
Tu penses qu'ils font les grandes gueules du sport là-bas?
Je sais pas, les grandes. Peut-être.
T'as failli tenter l'anglais là.
Il a failli dire les grandes gueules.
The Greek Mouse.
The Big Mouse. Du cyclisme.
Wout van Aert et Vingegaard qui partent tous les deux. Pogacar qui est en train de perdre définitivement le Tour de France à 4 km 400 de l'arrivée ici à Otakam.
Quand on dit, on raconte pas sa vie.
Julien Alaphilippe, est-ce qu'il va le faire? Julien Alaphilippe, non, je crois que c'est Tadej Pogacar qui s'impose sur le fil.
Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit.
Jonas Vingegaard has cracked Tadej Pogacar on the climb of the Mont Ventoux.
Pogacar, gewinnt die Etappe, dritte Etappensieg bei dieser Tour de France.
À la fin, il n'en restera qu'un.
Pogacar va s'imposer juste devant Vingegaard. Il est maillot jaune, il est encore vainqueur d'étape. Quelle finale incroyable!
Signé, deux hommes à tout.
Le Mont Ventoux.
Le dossier des GG.
C'est un hommage à la finale de NBA, parce qu'on a entendu les musiques d'Ennio Morricone et d'Une fois dans l'Ouest et tout ça.
Et les coureurs du Tour de France passeront cette année par le Mont Ventoux, commenté par nos amis américains. Alors la 77e édition du Critérium du Dauphiné s'élance aujourd'hui avec un plateau, il faut le dire, exceptionnel. C'est pas toujours le cas. Les deux meilleurs coureurs de la planète se retrouvent, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, à trois semaines du Tour de France 2025. On va retrouver justement notre envoyé spécial sur les routes du Dauphiné, Maria Zé. Bonjour Maria.
Salut JC, salut tout le monde.
Ouais, ce sont des retrouvailles tant attendues entre les deux monstres du cyclisme.
Ouais, ça faisait depuis le Tour de France l'année dernière qu'on n'avait plus vu Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard au départ de la même course. Alors forcément, le champion du monde slovène est très impatient.
J'espère que ça va batailler. Je ne me concentre pas que sur Jonas, mais j'ai hâte de courir contre lui et Remco. Si on a les jambes, ça peut donner du beau spectacle à la télévision.
Après une saison de classiques monstrueuses, on peut le dire, marquée par des victoires sur le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne notamment, Tadej Pogacar s'est reposé et s'est entraîné, notamment en Sierra Nevada. De retour, le Slovène tentera de remporter le Dauphiné pour la première fois, mais il ne veut pas se mettre trop de pression.
Si je ne gagne pas, ce n'est pas un drame. On a souvent vu que le Dauphiné n'était pas un véritable indicateur sur le résultat du Tour de France.
Vingegaard, vainqueur du Tour en 2023 et 2022, lui n'a plus couru depuis Paris-Nice, c'est sa commotion cérébrale. Alors même si son équipe laisse entendre qu'il est plus fort que l'année dernière, notamment grâce à plusieurs stages en altitude, Romain Bardet, le Français qui mettra un terme à sa carrière à l'issue de ce Dauphiné, attend de voir.
Il va être scruté. Je m'attends vraiment à ce que Pogacar domine la course, voir un Vingegaard aussi à un bon niveau, mais certainement un ton en dessous. Ça va nous mettre en appétit pour le Tour de France.
Ne pas oublier les outsiders quand même, parce que c'est pas des petits noms, puisque Remco Evenepoel, champion olympique et troisième du Tour de France l'année dernière, est aussi là pour concurrencer les deux monstres aussi, ainsi que Mathieu Van Der Poel, de retour après une blessure au poignet, qui pourrait bien s'illustrer sur les nombreuses étapes de puncher. Alors le classement général devrait plutôt se jouer le week-end prochain dans les montagnes des Alpes du Nord. En tout cas, ça ressemble tout de même vraiment à un petit avant-goût du Tour de France cet été.
Merci beaucoup Maria Azé pour ce reportage, nous mettre en appétit. C'est ce qu'a dit Romain Bardet, nous mettre en appétit, mais peut-être au-delà, c'est le sens de ma question, les GG, ce matin. Le Tour de France se joue-t-il sur ce Dauphiné? En partie sur ce Dauphiné? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Olivier Giraud?
Non.
Jérôme Pinault?
Non plus.
Fred Weiss?
Non.
Bon bah personne n'est, il y a pas de débat, donc on va passer à autre chose. Voilà, je voulais parler de vélo pour une fois, mais c'est raté malheureusement.
Non mais ça va pas jouer là-dessus, parce que tu peux pas comparer une course d'une semaine, une course de trois semaines. On est à quatre semaines du départ du Tour, donc tu sais pas où en sont l'état de préparation, l'état de forme des uns et des autres. Tu sais pas s'ils vont pas en garder sous le coude, s'ils vont pas tout montrer. Donc effectivement, tu sais c'est un jeu de
ils
poker.
Vont se tester par contre. Hein.
Mais je pense que Pogacar va vouloir mettre une mine à Vingegaard d'entrée, lui faire comprendre que le patron c'est lui et que le Danois il peut retourner s'entraîner.
Et justement, si Vingegaard
en Espagne.
Si Vingegaard prend une grosse crouste sur ça, c'est pas un peu dur pour lui
dans le
si ça devait arriver.
Ça n'arrivera pas.
D'accord, mais
aujourd'hui,
si,
il y a une telle maîtrise de la forme et de l'ascension et de la préparation, il y a une telle maîtrise que s'ils avaient des voyants qui étaient encore au rouge du côté de Vingegaard, ils ne seraient pas allés au Dauphiné.
Et puis même dans son discours de Vingegaard, il a l'air d'avoir vraiment très bien récupéré et il se sent prêt. Hein.
Il dit je pense que je peux battre Poggi, je pense être beaucoup plus fort que l'année dernière, et toute son équipe dit qu'il marche sur l'eau en ce moment. Donc c'est vrai qu'il est super excitant.
Cette course,
c'est la première fois depuis des années que moi je suis autant excité à l'idée de voir cette course.
Ça, tu as bien raison. Mais si j'écoute vos réponses là, vous êtes tous sur le non, ça va pas jouer là, il faut attendre le Tour de France et tout ça. Qu'est-ce qui se joue là? Est-ce que ça se jauge? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'il y a un petit avantage psychologique, vous, les sportifs de haut niveau, à prendre sur cette confrontation?
L'avantage psychologique, c'est pas au geeky là. Hein. Il a montré des trucs, il est allé sur des courses où normalement un grand champion, ils allaient plus quoi. C'est-à-dire que les grands gagnants du Tour que tu connais bien, Jérôme, eh ben ils évitaient les courses dangereuses. Et lui, il a été tout affronté.
Il s'évitait aussi. Ouais.
Et il s'évitait aussi. Et donc il y a une nouvelle donne et qui a mis bien en lumière le cyclisme aussi. Hein. Le fait que Poggi se mette partout, c'est énorme. Et là aujourd'hui, tu vois, le Dauphiné. C'est un petit peu comme certaines finales où c'est les spécialistes qui les regardent. Et ben le Dauphiné, il y avait beaucoup de spécialistes qui regardaient le Dauphiné.
Alors que oui, là, maintenant c'est plus accessible à tout le monde. Ça, c'est
je peux te dire, je vais le regarder.
Alors ok, mais Jérôme, ouais, si Pogacar a l'avantage psychologique par rapport au Tour de France de l'année dernière, par rapport à tout ce qu'il a montré cette saison, est-ce que Jonas Vingegaard, il doit pas un peu mettre de doute là dans la tête du Slovène?
Bien sûr que si, et je pense que ce Dauphiné donnera des premières réponses sur l'état de forme des deux coureurs. Les deux coureurs, on va savoir un peu où ils en sont, et surtout en haute montagne. On va attendre la fin de semaine. Elle l'a dit, Maria, il y a des courses très, des étapes très difficiles, et notamment cette arrivée à Valsoni qui va être fantastique avec une magnifique dernière montée jusqu'en haut, jusqu'au barrage. Là, on verra les deux où ils en sont. En revanche, quand je te dis non pour la préparation, pour le Tour, et est-ce que le Tour se joue là? Non, parce que déjà, ils n'auront pas les mêmes coéquipiers. Il y a quelques coéquipiers de chaque côté qui ont fait le Giro et qui vont venir s'ajouter au collectif.
Mais il n'a pas besoin de coéquipiers, Pogacar.
Il en aura énormément besoin sur le Tour, et c'est peut-être là où on aura quelques réponses sur l'état de forme de ses coéquipiers, parce que Vingegaard, il aura une équipe très forte, et collectivement, quand Pogacar s'était incliné face à Vingegaard, c'était surtout dû à un travail collectif.
Ah, il l'avait usé.
Qu'est-ce que tu attends, Christophe?
Moi, j'attends qu'il se mette une peignée d'entrée. J'attends qu'ils se mettent une peignée. J'attends qu'ils nous. Qu'ils nous mettent l'eau à la bouche pour le Tour de France. Et effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure. Jérôme disait non, il y aura pas de Poggi va pas écraser la course. Mais j'espère surtout qu'il va pas l'écraser, parce qu'autrement, effectivement, on pourrait avoir des doutes sur notre beau mois de juillet. Et nous, on a envie que ce mois de juillet soit ce feuilleton génial où on va s'éclater pendant 3 semaines et où on va vivre des émotions dingues. Donc j'espère que. Mais tu sais quoi? J'espère même que Vingegaard tape Pogacar sur ce Dauphiné. Et ça,
mais c'est alors là, incroyable,
ce serait un formidable teasing.
Bien sûr,
un teasing incroyable.
Il faut pas oublier, j'y sais qu'il y aura ce duel va être arbitré par Remco. Remco revient aussi.
On ne sait
pas où il en est, mais c'est les données en entraînement sont très très bonnes. Mmh. Il est encore plus affûté que l'année dernière au départ du Tour. Donc il va être dans le
bien
game.
Sûr.
Et puis la présence de Mathieu Van Der Poel, évidemment, et surtout ce Dauphiné. Moi, j'en attends quoi? J'en attends un super duel. Je suis comme Christophe. J'espère que Vingegaard va mettre à mal Pogacar. Et puis on va rendre un très bel hommage à un coureur français qui fait sa dernière course sur ce Bardet, qui arrêtera Romain Bardet, parce que pour nous c'est super important. Romain Bardet, c'est les adieux d'un Richard Gasquet à Roland Garros. Ça vaut au moins ça, c'est-à-dire que c'est un phénomène français, un très grand coureur français, il avec la philosophie qu'il a lui et qu'il a amené dans le vélo, deuxième du tour dans un cyclisme qu'il porte à bout de bras, et qu'il a porté à bout de bras avec une philosophie d'un cyclisme qui fait du bien quand on regarde Romain Bardet. C'est sa course d'adieu. Et j'espère qu'il sera au niveau, je le pense, il sort d'un très bon Giro. On aura quelques Français, Lenny Martinez sera là aussi.
Et puis le petit Sexas, là.
Et le petit Sexas, voilà. Je voulais finir par ça, parce que notre pépite à nous, on parle de nos phénomènes Pogacar, Vingegaard et Evenepoel, mais notre pépite à nous, Paul Sexas, l'équipe Décathlon AG2R a fait pour moi le très bon choix. Il a sauté le Giro U23 et il est aligné à 19 ans à peine sur son premier Dauphiné libéré avec des responsabilités. Et là, on va aussi, nous côté français, avoir des réponses.
La première étape du Dauphiné, c'est évidemment à suivre aujourd'hui sur RMC. Allez, on joue les amis.
Luigi number one.
RMC, tu gardes ou tu switches?
Sébastien est avec nous, il a été sélectionné au 7-32-16, c'est lui qui a gagné ce matin dans les grandes gueules du sport. Salut Sébastien.
Salut à tous.
On est très heureux de t'avoir, j'imagine que tu es très heureux de jouer aussi sur RMC.
Oui.
Bravo, attention, tu n'as pas encore gagné le Graal, ok Sébastien?
Ok.
Mais hier, notre auditrice l'a remporté, écoute-moi bien. J'ai devant moi deux boules. Dans l'une, j'ai la Nintendo Switch avec le jeu Mario Kart World. Dans l'autre, j'ai un bon d'achat de 100 euros à valoir chez Micromania Zing. Tu entends? Je vais faire le mélange. Et dès que tu dis stop, je prends une boule dans les mains. On t'écoute.
Stop.
Stop. Parfait. Ok, maintenant tu vas encore jouer, parce que j'en ai une là dans les mains. Mais tu peux décider de la switcher. Ou alors je garde cette boule. Sache hier que l'auditrice ne m'a pas fait confiance et elle a bien eu raison. Elle a switché et elle a gagné. Qu'est-ce que tu veux faire?
Je vais rester sur celle-là.
Moi, je me demande s'il faut. Moi, je te conseille de switcher. Il faut pas me faire confiance. Mais après, tu fais comme tu veux, Sébastien.
Je vais pas vous faire confiance sur ce coup-là. Je vais rester sur la première intention.
Tu restes sur la première intention,
jamais
Sébastien.
Jamais faire confiance à ce mec-là.
T'es sûr?
Oui, sûr.
Bon bah j'ouvre alors. J'ouvre s'il est sûr. Moi je... Vu ce qui s'est passé hier, je serais allé sur l'autre. Mais bon, tu as choisi, mon cher Sébastien. Et voici ce que tu as gagné maintenant sur RMC dans les grandes gueules du sport. Pour toi, Sébastien. 100 euros à dépenser chez Micromania Zing. C'est déjà
un très
beau cadeau, évidemment. Ça fait un petit financement pour...
Faut pas faire confiance à ce mec.
Bah si, j'ai dit qu'il fallait changer, moi, Sébastien. Je voulais que tu changes, mon
c'est
Sébastien.
C'est vrai, j'ai pas écouté.
C'est pas grave, c'est encore... Et c'est évidemment déjà un très beau cadeau, 100 euros de bons d'achat. Et ça donne une participation évidemment pour la Nintendo Switch. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Sébastien. Et à bientôt sur RMC. Allez, tout de suite, la fin de cette émission, 11h46, le débat caché.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h49, toujours avec Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Fred Weiss, Olivier Giraud. À partir de midi, les paris RMC autour de la rencontre, la troisième place de la Ligue des Nations entre la France et l'Allemagne. On vous donnera toutes les cotes et évidemment, on pariera sur Sinner Alcaraz. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien, c'est le principe, et pourtant elles vont devoir débattre dans quelques instants. C'est inédit à la radio française. Vous ne savez rien, les amis, et pourtant vous allez vous écharper. Le débat caché du jour. C'est ça.
Ouais, je suis à l'aréna, là. Il y a quelque chose ici. Depuis le premier jour, j'ai senti une énergie très spéciale. Il y a un truc au-delà de Parisien, c'est le Grand Paris. Ça nous ressemble. Ça faisait longtemps. Très longtemps que j'avais pas ressenti un truc pareil autour du sport à Paris. Sur le terrain, les mecs, ils s'arrachent, ils sont à fond. Dans les tribunes, je t'en parle même pas. J'en ai des frissons là quand je t'en parle. Tout est réuni pour aller loin.
Sa présentation a eu lieu vendredi soir. Bravo Fred Weiss, tu as trouvé le bon débat caché. Une présentation en grande pompe et en grande chaussure à l'Adidas Arena à l'occasion des demi-finales de Betclic Elite. Omar Sy, acclamé par tout le public parisien depuis jeudi, il n'est plus seulement un acteur, l'une des personnalités préférées des Français. Non, depuis jeudi, il est aussi copropriétaire du Paris Basketball. Aux côtés des Américains, David Kahn, actuel président, et Eric Schwartz, actionnaire majoritaire. Alors qu'en pensent tout d'abord les joueurs? Je vous propose d'écouter Léopold de Cavalier.
C'est pas la première fois qu'il vient dans le vestiaire et à chaque fois c'était pour une victoire, donc on a un peu célébré avec lui. Là en plus on lui a souhaité la bienvenue, donc c'était un petit moment hors du temps où on a tous un peu dansé, où on a apprécié sa compagnie.
Qu'en pensent maintenant les supporters?
C'est plutôt cool, moi j'aime bien avoir d'autres aspects du sport des fois qui peuvent s'entremêler avec le club.
Ça peut nous faire prendre une autre dimension. On sait qu'il est fan de basket, il vient de banlieue parisienne, il représente le Grand Paris. C'est un peu ce que l'image du club veut donner. Donc j'étais agréablement surpris, mais pas si étonné que ça.
Avec l'arrivée d'Omar Sy, le Paris Basketball change-t-il de dimension? Vous avez entendu ce supporter notamment. C'est notre débat caché. C'est un oui, c'est un non. Fred Weiss.
Oui.
Jérôme Pinault.
Oui.
Olivier Giraud.
Eh oui.
Christophe Cessieux.
Oui.
Tout le monde pense que oui.
Bah oui.
Ouais.
Bien.
Fred Weiss.
Évidemment, quand on a une personnalité comme ça, une des personnalités préférées des Français, qui investit dans le basket, qui investit sur Paris, mais qui va voir des matchs. Léopold Cavalier l'a expliqué. C'est pas quelqu'un qui dit je mets de l'argent et c'est tout. Non, il va voir des matchs. Si on va voir des matchs du Paris Basketball, on va le croiser parce qu'il est vraiment impliqué, parce qu'il aime vraiment ça.
Tu vas le croiser. Il est quand même tout en bas.
On peut éventuellement le croiser.
Comme il était pour les Jeux Olympiques et comme Olivier était tout en bas aussi pour les Jeux Olympiques.
Alors que d'autres étaient beaucoup plus haut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment.
Sayo, les gueux ne vont pas le croiser.
Son impact est énorme, bien sûr, parce qu'une nouvelle fois, c'est quelqu'un qui est impliqué. Et déjà que le Paris Basketball fait beaucoup de choses intéressantes. Je trouve qu'ils sont dans la mouvance. Ils font ce qu'il faut sportivement, par rapport au public, etc. Ils ont tout compris.
Ouais.
Omar Sy, c'est magnifique. Et en plus, je me dis.
Donne envie d'aimer le basket.
Ah, mais bien sûr.
Exactement.
Et dans ce club, il y a Banjassi, Amar Sy, Omar Sy, et avec des si, on peut mettre Paris en bouteille.
On arrête là-dessus.
Ça m'embête, j'aurais bien arrêté là-dessus, mais il reste 3 minutes de débat.
Le coup qu'a fait le Paris Basket avec Omar Sy, il est double. C'est parce qu'on a déjà vu ça dans le basket. Bah, Tipeee, il a investi, mais Tipeee, c'est un basketteur. Et là, c'est autre chose qui arrive. Quand on parle d'entertainment, là, c'est le vrai. Parce qu'Omar Sy, c'était quoi son film Intouchable? Omar Sy, c'est pas Intouchable, c'est Marvel aujourd'hui. C'est un acteur qui est connu mondialement. Donc, la population qui va arriver, on l'avait vu avec la fin de Victor Wembanyama à Boulogne, c'est ça? La traque, ça peut avoir des acteurs, et ben Paris a moitié déjà gagné son pari.
Ok, dis donc, il n'y a que des jeux de mots là.
J'essaye de tenir la route.
Je ne sais pas si je vais réussir.
Tu vas réussir.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit Fred, c'est que moi je suis pour cela parce que c'est un passionné, parce qu'il vient à la salle, parce qu'il s'y intéresse. Et un investisseur avec une renommée mondiale comme lui vient mettre en lumière un club qui le mérite, et surtout c'est un mec qui est là et qui plaît à tout le monde. C'est le mec que tout le monde aime et qui est passionné. Il a l'oseille, il va porter son club. Moi je trouve ça formidable. Ça va au contre-pied de ces investisseurs qui arrivent de nulle part, qui veulent juste gagner de l'oseille avec le sport. Lui c'est plus que ça, et moi je trouve que c'est formidable. Si ça peut donner tout simplement des idées à d'autres, ce serait parfait, parce que ça apporte encore plus une plus-value à un sport mineur qu'est le basket.
T'as beaucoup de chance de ne pas être en plateau. Hein. Continue à regarder ton tournoi de Six là.
Non mais c'est c'est parfait pour le basket et pour ce club de Paris qui je suis moi un peu plus le basket parce que Paris me plaît, parce que ce club est en train de créer quelque chose qu'on voyait pas jusque là. On a envie de supporter cette équipe et donc avec l'apport en plus d'Omar Sy, ça va être encore mieux, je pense.
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais
ah ouais,
Paris
vraiment mieux avant.
Sidéré.
Voilà. Oh oui, bravo, bravo. Je ne sais pas dans quelle époque tu vis, mais bravo en tout cas, Christophe.
En 1945.
On va s'arrêter là-dessus et bravo au Paris Basketball et à Omar Sy pour cette nouvelle aventure, évidemment, dans le basket. 11h55, merci à tous les GG d'avoir été à mes côtés ce matin. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés toujours aussi nombreux. Vous précisez que c'est une après-midi de folie qui s'ouvre sur RMC, parce qu'à partir de 15h, il y a deux rencontres. Il y a France, Allemagne, match pour la troisième place de la Ligue des Nations. À 15h, il y a également la finale de Roland-Garros. Tous ces matchs vont être traités dans les paris RMC dans quelques instants. Bref, on va se régaler. Restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Merci encore les GG. On se retrouve samedi prochain à 9h, évidemment. Salut.